Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Système des Nations Unies, Issa Sanogo arrive bientôt à Ouagadougou en remplacement de Barbara Manzi, expulsée en décembre dernier. Le Sahel n'est plus la priorité des partenaires techniques et financiers. Ces propos sont du secrétaire général du CILS qui organise ses 50 ans d'existence. En visite au camp Passepanga, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé la gendarmerie à s'engager davantage dans les opérations de combat. Appelez-le désormais Dr Ousmane Paré. L'ex-rédacteur en chef d'Omega Media a soutenu aujourd'hui sa thèse de doctorat en lettres et obtient la mention très honorable à l'issue de sa présentation. Mali-Burkina, la coopération ne s'est jamais aussi bien portée, selon le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Il est notre invité du jour. Il évoque le projet de fédération Mali-Guinée-Burkina porté par le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kylem.
Voici pour le sommaire le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Les Nations Unies ont désormais un nouveau représentant au Burkina. L'Ivoirien Issa Sanogo a été nommé coordinateur résident en remplacement de l'Italienne Barbara Manzi, expulsé en décembre dernier. L'information a été confirmée à Omega Media par plusieurs sources au sein du système des Nations Unies. L'Ivoirien prendra fonction dans la semaine à venir à Ouagadougou, Solomon Nikema.
L'Ivoirien Issa Sanogo, en poste à Madagascar depuis octobre 2020, a été nommé nouveau coordonnateur résident des Nations Unies au Burkina. Selon les informations de Omega, il prendra fonction les semaines à venir à Ouagadougou. Ce travailleur des Nations Unies qui s'apprête à diriger les 33 agences de l'ONU dans le pays a plus de 25 années d'expérience dans le domaine du développement et de l'action humanitaire. Aux Nations Unies, selon sa biographie, Issa Sanogo a occupé des postes de direction au sein du Programme alimentaire mondial, PAM, où il a été notamment, dans le cadre de ses affectations les plus récentes, directeur du Centre régional d'excellence contre la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire, directeur régional des pays pour le Liban, puis pour le Tchad, chef de l'unité d'analyse économique en Italie et conseiller régional en évaluation des marchés en Thaïlande. Avant de rejoindre les Nations Unies, poursuit sa biographie, il a travaillé comme économiste à la Banque mondiale en Guinée et a occupé des postes au sein du gouvernement de la Côte d'Ivoire, notamment en tant que conseiller du ministre de l'Industrie et en tant qu'économiste au sein du Bureau d'études techniques et de développement. Issa Sanogo est titulaire d'un doctorat en économie, d'un master en analyse financière et économique des projets de développement et d'un master en analyse et gestion des politiques économiques du Centre d'études et de recherche sur le développement international de l'Université d'Auvergne en France. Le 23 décembre 2022, la désormais ex-coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Barbara Manzi, a été déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso et priée de quitter le pays.
Le président de la transition a invité jeudi la gendarmerie nationale à s'engager davantage dans les opérations de combat. Le capitaine Ibrahim Traoré était en visite au camp Passepanga à Ouagadougou, Charles Da.
Selon le communiqué de la présidence du Faso, le chef de l'État a invité le personnel de la gendarmerie nationale à s'engager davantage dans les opérations de combat. Pour lui, poursuit le communiqué, nous devons quitter les idées corporatistes et avancer dans la guerre pour la récupération du territoire. Il faut penser aux sacrifices que vous faites pour la nation, a-t-il soutenu, rapporte toujours la présidence. Le président Traoré a félicité et encouragé la gendarmerie pour le travail abattu et pour le combat qui se mène actuellement sur le terrain, peut-on lire dans le communiqué, ajoutant qu'il a également salué les initiatives développées par la gendarmerie nationale pour la prise en charge des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. Tout en saluant l'engagement de la gendarmerie nationale sur le front de la lutte contre l'hydre terroriste, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de se réorganiser pour mailler le territoire, indique la présidence. Selon le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Évrard Somda, cette rencontre avec le chef de l'État a été une opportunité pour le personnel de la gendarmerie de recueillir des orientations et de traduire son engagement dans la lutte contre le terrorisme, note le communiqué de la présidence du FASO. Toujours selon la présidence, les préoccupations du personnel ont tourné autour du déploiement des prévôts dans les unités combattantes, de la coordination des actions sur le terrain, de la nécessité du renforcement en matériel de combat, de la gestion des grands incidents et de la question de l'autonomisation de la gendarmerie nationale. À l'issue des échanges, explique le communiqué, le premier responsable de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Évrard Somda, a salué la franchise avec laquelle le chef de l'État a apporté les réponses aux préoccupations du personnel. Et pour marquer le passage du président de la transition au camp Paspanga, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a remis un cadeau de souvenir au chef de l'État.
Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, fête ses 50 ans d'existence. À l'occasion de ce jubilé d'or, une table ronde a été organisée ce 15 juin à Ouagadougou autour des acquis et perspectives pour un financement de l'institution par les États membres. Une table ronde pour mieux affiner les stratégies, car selon le secrétaire exécutif du SILS, le Sahel n'est plus la priorité des partenaires techniques et financiers. Le compte-rendu est de Ibrahim Niaouné.
1973-2023, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a 50 ans d'engagement au service des populations sahéliennes et ouest-africaines. Une institution qui rencontre aujourd'hui des difficultés dans le financement des activités à cause de la conjoncture actuelle que connaît le monde. D'où le bien fondé de la tenue de la présente table ronde sur les acquis et les perspectives de financement. L'insécurité qui frappe aussi les pays fait changer les priorités des partenaires techniques et financiers, selon Abdoulaye Mohamadou, secrétaire exécutif du SILS.
La question du financement est une question importante parce que la conjoncture, non seulement au niveau de la région, a changé, mais également la conjoncture internationale également. Si vous prenez sur le plan régional, au début des années 70, quand le SILS a été créé, il était pratiquement la seule organisation dans ce domaine-là. Donc pratiquement, il drainait vers lui les financements des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, le paysage institutionnel a changé. La conjoncture internationale également a changé.
Engagé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et les effets de la désertification et de la sécheresse depuis sa création, le SILS dresse un bilan satisfaisant de ses actions à l'endroit de la population du Sahel après un demi-siècle d'existence. Abdoulaye Mohamadou.
Nous pouvons dire que c'est un bilan globalement satisfaisant à travers les nombreux acquis, que ce soit dans le domaine de la sécurité alimentaire ou la lutte contre les effets de la désertification et de la sécheresse, qui sont les deux piliers de l'action du SILS.
Les catastrophes naturelles survenues ces dernières années et la guerre russo-ukrainienne ont augmenté le nombre des personnes à prendre en charge. Cet état de fait a réorienté les priorités des partenaires vers l'aide humanitaire. Fort de ce constat, le secrétaire exécutif du SILS et ses pairs examineront des pistes de solutions pour un autofinancement de l'institution.
Appelez-le désormais Ousmane Paré, docteur, l'ex-rédacteur en chef de Omega Media. Ousmane Paré est désormais docteur en lettres modernes. Le journaliste a soutenu sa thèse de doctorat ce jeudi sous le thème pragmatique du discours politique au Burkina, de la révolution démocratique et populaire au régime d'état de droit. Ousmane Paré a obtenu la mention très honorable à l'issue de sa présentation. Solomon Nikema et Abdoul Fattah Temtouré.
La mention très honorable.
Ousmane Paré a analysé 80 discours des présidents Thomas Sankara, Blaise Compaoré et Roch Kabore. En 367 pages divisées en trois parties, Ousmane Paré démontre que le discours politique a des impacts sur le développement. Et les différents chefs d'État utilisent majoritairement la conviction et la persuasion afin d'atteindre leurs objectifs. Le cas par exemple de la révolution sous Thomas Sankara.
Première observation, c'est la performance, pour utiliser donc des termes de chez nous, ou bien l'efficacité des discours qu'on a constaté, en tout cas sous le CNR. Donc par rapport aux autres discours, on voit qu'il y a très peu de performance, c'est-à-dire qu'il y a l'écart entre le dire et le faire est assez énorme. Alors que quand on voit par exemple, pour ce qui concerne les discours de la révolution, il n'y a pas un grand écart entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ça, c'est la caractéristique principale.
Le professeur Joseph Paré, directeur de la thèse, a exprimé sa fierté pour son protégé qui vient de boucler plusieurs années de recherche. Selon lui, Ousmane Paré a analysé le faire et le dire politique au Burkina. Professeur Joseph Paré.
Ce que nous appelons la sémiotique du développement, la sémiotique qui interroge les processus au sein de la société pour voir comment celle-ci évolue à travers un certain nombre de phénomènes. Ici, c'est le discours des hommes politiques qui a été choisi comme cadre d'examen du rapport entre le faire politique et le dire politique.
Cette thèse, en plus d'enrichir la science, constitue un outil pour les hommes politiques pour mesurer l'efficacité de leur discours. Le journaliste Ousmane Paré, lui, compte désormais à son arc une corde supplémentaire, celle du spécialiste du discours politique.
Le Burkina Faso a célébré ce jeudi 15 juin en différé pour la 11e fois la Journée mondiale du lait, une célébration placée sous le signe de la promotion de la cohésion sociale à travers la mobilisation des acteurs de la filière lait, une occasion également pour dégager des pistes de solutions pour faire face aux difficultés qui entravent la production et la transformation des produits laitiers. Il s'agit entre autres du vol des animaux, de l'accessibilité des zones de pâturage et des marchés à bétail. Plus de détails avec Irène Nikema et Willio Yaguba.
Filière lait locale, quelle contribution des acteurs pour la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso? C'est autour de ce thème que les acteurs de la filière ont axé la réflexion ce 15 juin afin de trouver des solutions idoines aux problèmes qui minent le secteur. Et c'était à la faveur de la célébration de la Journée mondiale du lait, 11e du genre au Burkina Faso. À en croire le président de l'interprofession des producteurs de lait, la filière lait fait face à des difficultés qui freinent son développement. Kiswane Sida, nous, Al-Hayat Ouedraogo, président de l'IproLait Burkina.
On était vraiment affecté par l'invasion du lait en poudre. Voilà, du lait, naturellement, soi-disant lait, en tout cas, qui minait vraiment la filière lait. Actuellement, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à cette difficulté. Même tous les acteurs qui ont la bonne volonté de pouvoir produire ce lait, en tout cas, ne sont plus sur leur territoire. Donc, ça fait que, en tout cas, c'est affecté. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui sont déplacés. Et même des unités de transformation qui sont dans ces localités n'arrivent même plus à avoir de lait en parlant de la transformer.
Face à cette situation, le ministre en charge des ressources animales et halieutiques a rassuré que son département travaille à améliorer les conditions de vie et du travail des éleveurs. Denis Ouedraogo, ministre en charge des ressources animales et halieutiques.
Nous sommes en train de dégager des zones de cantonnement dans le cadre de la sécurisation du territoire et d'essayer d'améliorer les zones pastorales et la première zone que nous voulons vraiment valoriser pour mettre un ensemble d'infrastructures, notamment des forages à gros débit, des zones de pâture, c'est la zone pastorale située à Bagré.
Le ministre a par ailleurs indiqué que son institution a initié une campagne de vaccination afin d'améliorer la santé des animaux et aussi dans l'optique de les rendre plus productifs. Cette célébration de la 11e journée mondiale du lait fut également l'occasion pour les acteurs de faire des recommandations pour une filière lait plus compétitive.
La revue de presse.
Si on vote au Mali, c'est qu'on peut le faire aussi au Burkina Faso. C'est en tout cas la conviction de l'Express du Faso qui appelle les autorités burkinabées à ne pas donner l'impression qu'elles veulent s'éterniser au pouvoir. Dans sa dynamique de souveraineté et d'indépendance, le quotidien se demande s'il n'est pas de revoir la constitution du Burkina pour l'adapter à nos réalités. Le pays, pour sa part, appréhende la réaction des Maliens au sujet des recommandations du secrétariat général de l'ONU sur l'AMINUSMA. Aujourd'hui, au Faso, quant à lui, nous conduit au Sénégal. La revue de presse de ce jeudi est signée Asma Odao.
Plusieurs sujets sont commentés par les quotidiens du jour. À l'Express du Faso, on parle d'élections. Le vote du référendum pour la nouvelle constitution au Mali aura lieu ce dimanche 18 juin. À l'issue, si le oui l'emporte, le Mali se sera doté d'une nouvelle constitution, relate le journal Bobolais qui précise que ce vote se tient alors que la situation sécuritaire n'est pas aussi calme que les Maliens l'auraient voulu. C'est dit que malgré cette situation d'insécurité, les Maliens ont décidé de voter là où cela est possible et d'exprimer ainsi leur devoir de citoyen et leur engagement à bâtir leur pays sur des bases démocratiques solides, commente l'Express, qui pense que si on peut donc voter au Mali, pourquoi ne pourrait-on pas le faire au Burkina Faso ? Et le journal de prévenir, il faut que les autorités de la transition évitent de donner l'impression qu'elles veulent un nouveau bail à défaut de rester définitivement au pouvoir. Et en parlant de révision de la Constitution, le quotidien indique qu'à l'issue de la remise des rapports d'activité de 2021 et 2022 du médiateur du Faso, le chef du gouvernement, comme s'il attendait une occasion propice pour aborder le sujet, a indiqué, je cite, « Il nous faut une nouvelle constitution qui reflète réellement les aspirations de nos populations. » Fin de citation. Avis partagé par notre confrère qui dit comprendre le courroux du chef du gouvernement Kelem lorsqu'il martèle que jusque-là, nous avons une vision carrée car notre constitution est une copie de la constitution française. Estimant donc qu'il est temps de revoir ensemble un certain nombre de textes, le quotidien pose la question suivante. 63 ans après, doit-on continuer à fonctionner avec les textes, surtout des constitutions qui n'ont rien à voir avec nos réalités ? La question reste posée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de publier un rapport contenant ses recommandations sur la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Il propose notamment de reconfigurer la mission, limiter ses priorités, rationaliser ses missions, nous informe le pays pour qui on peut se demander ce que les autorités maliennes pensent en vérité de ces recommandations. Si pour le journal des 1200 logements, Antonio Guterres fait preuve de lucidité, tant les difficultés du terrain imposent des voies urgentes de solutions, il estime néanmoins que le plus important est que ces recommandations épousent les intérêts du peuple malien. Aujourd'hui, au Faso nous emmène au Sénégal pour investiguer sur les violences meurtrières, notamment pour savoir qui était cette cinquième colonne de la foule et aux côtés des policiers. Et le journal ouagalais de préciser, si très vite les flics s'en sont lavés les mains, indexant des individus infiltrés dans les manifestants à des fins subversives, du côté du PASTEF et de l'opposition, on se veut catégorique. Il s'agit des sicaires du pouvoir venus à la rescousse de la police pour casser du manifestant. Une enquête est encore ouverte sur ces supplétifs hybrides et les Sénégalais attendent d'être fixés rapidement sur quoi ils retournent sur cette présence insolite mais dangereuse, conclut aujourd'hui au Faso.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de la réaction de ce jeudi est Abdoulaye Diop. Le ministre malien des Affaires étrangères évoque la coopération entre le Mali et le Burkina, une coopération qui ne s'est jamais aussi bien portée selon lui. Il réagit aussi au projet de fédération entre le Mali, la Guinée et le Burkina. C'est un projet porté par le chef du gouvernement burkinabé, Apollinaire Kelem. Abdoulaye Diop est interrogé par Abdoul Fattah Tiemtouré.
Bonjour. La première question peut être simple ou complexe selon la situation. Comment se porte l'axe Bamako-Ouagadougou ?
L'axe Bamako-Ouagadougou se porte comme il n'a jamais été. C'est un axe qui se renforce, une relation de confiance entre son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition et chef de l'État du Faso. Aujourd'hui, le Mali entretient une relation bilatérale stratégique très forte avec le Burkina, tant sur les questions de sécurité que sur les questions de développement. Nous regardons dans la même direction, nos peuples regardent dans la même direction. Je pense que nous sommes dans une relation positive et qui évolue et qui est très dynamique.
Est-ce qu'on peut en dire autant pour la coopération entre le Mali et le Niger ou entre le Mali, le Burkina et le Niger? Est-ce qu'entre les trois pays qui composent essentiellement le Sahel et qui partagent les mêmes défis aujourd'hui, le courant passe très bien?
En tout cas, le courant passe très bien avec le Burkina. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de comparer les relations entre nous et d'autres pays voisins. Chaque relation avec chaque pays est spécifique. Je vois que le Burkina, c'est excellent aujourd'hui. Avec certains pays, nous entretenons des relations normales. Même certains pays avec lesquels nous pouvons avoir des relations difficiles au niveau gouvernant à gouvernant. Ces relations n'ont jamais touché la qualité de l'interaction entre nos peuples. Nos peuples sont des peuples amis, des peuples frères, unis par l'histoire et par la géographie. Et la géographie demeure une réalité. Je pense que même aujourd'hui, certains dirigeants de certains pays qui posent des actes dans une autre direction, je ne pense pas que leur population les suive nécessairement, qu'un jour, ils vont devoir venir à la réalité que nous sommes unis par l'histoire et la géographie et que nous avons intérêt à travailler dans le sens de l'intérêt de nos populations et surtout à suivre nos populations. Dans le long terme, moi je pense que ces petits incidents qui peuvent exister entre les gouvernants seront dépassés par l'intérêt de nos populations. Et ce n'est pas notre choix. On choisit sans doute son ami, mais son frère, son voisin, on ne l'a pas choisi. Et ce qui nous unit, nous, Burkina, Niger, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal ou Mauritanie, ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous unit avec ceux qui prétendent souvent venir nous aider, mais qui souvent viennent créer la désunion, viennent créer des problèmes qui constituent des distractions. Aujourd'hui, pour nos pays, il est important que nos dirigeants et nos populations comprennent que ceux-ci travaillent pour leurs intérêts et nous, nous avons intérêt à comprendre que nous devons de plus en plus travailler aussi à défendre et à promouvoir nos intérêts.
Au Burkina, récemment, le Premier ministre Apollinaire Kyelem était à l'Assemblée législative de transition. Il est revenu sur ce projet de fédération qui lui tient à cœur entre le Burkina et le Mali pour un premier temps. Il pense également à la Guinée. Et bien sûr, un projet qui peut être étendu plus tard à d'autres pays du continent s'attend à devenir l'une des priorités de la transition en cours au Burkina. Est-ce que cette question est débattue également au Mali? Est-ce que ça constitue une priorité de la transition malienne?
Sans répondre directement à cette question spécifique, je dois dire qu'avec le Burkina, comme avec d'autres pays, le Mali travaille toujours à renforcer l'intégration de nos peuples et l'intégration physique de nos pays en mettant en place les infrastructures qu'il faut. De la première constitution du Mali, adoptée le 22 septembre 1960 à aujourd'hui, toutes les constitutions du Mali ont prévu des dispositions qui indiquent très clairement que notre pays est prêt à céder toute ou partie de sa souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Aucun gouvernement au Mali ne cède des parties de cet engagement panafricain qui reste. Maintenant, il reste à nos pays de trouver les voies et les moyens de travailler à renforcer nos populations, à renforcer la libre circulation, à créer les différents programmes d'infrastructures qui nous permettent de créer ces cadres qui nous amènera demain à avoir des entités fortes qui fédèrent nos pays et qui permettent à la voix de nos pays d'être entendue. Et je pense que comme avec le Burkina, avec les autres pays, le Mali reste toujours disposé à cheminer pour renforcer l'intégration de nos pays. Mais pour cela, il nous faut poser des jalons concrets qui nous amènent vers la réalisation. Donc l'intégration de nos pays et l'unité de l'Afrique demeurent des objectifs stratégiques pour lesquels nous devons travailler au quotidien en ayant conscience du fait aussi que les partenaires non africains comprennent mieux les dangers que présente pour eux l'unité de l'Afrique. Et ils font tout pour nous diviser. Donc nous devons continuer ce chemin de façon méthodique, de façon organisée et en faisant en sorte que nos populations soient partie intégrante de l'ensemble de ces chemins. Vous comprendrez que nous sommes sur des questions extrêmement sensibles, qu'il n'est pas nécessaire de dévoiler dans les détails ce que nous voulons faire. Mais je pense que nous connaissons l'objectif. Nous devons pouvoir nous donner les moyens d'arriver à fédérer le continent africain pour qu'elle puisse un jour parler d'une seule voix et constituer une entité qui compte et qui est entendue sur la scène internationale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, merci.
Je vous en prie.
Edwige Tendrebogo à la réalisation, Ibrahim Nyaone au live Facebook. Je suis Ibrahim Bailly, merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.